Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour parler d'électroménager. Alors, en 1830, l'invention de la machine à laver, le linge, libère la femme de sa pire corvée. La revendication des droits naît peut-être à cet instant où elles ont enfin le temps de réfléchir à leur place dans la société. En 1950, leur temps de travail passe de 87 heures hebdomadaires à 33 heures. Un gain de 54 heures, tout de même, hein, pas moins, qui les autorise enfin à sortir de leur rôle de pivot et d'esclaves de la cellule familiale, n'ayant pas peur des mots. Elles peuvent aller travailler mieux, plus longtemps, et leur salaire augmente. Pas des masses, hein, faut pas déconner non plus. Cette clé, le salaire, c'est celle de l'indépendance. Mais la technologie peut également se mettre au service d'une idéologie médiévale. Par exemple, cette merveilleuse invention qu'est l'échographie, hein, qui nous permet de voir si les enfants vont bien ou mal, elle permet aussi de déterminer quel est le sexe de l'enfant. Et dans des pays comme l'Inde ou comme la Chine, lorsque l'enfant est une fille, ça signifie bien souvent la mort de l'enfant. C'est toute l'ambiguïté des machines qui s'exprime là, et nos intervenantes ne manqueront pas de l'évoquer, je l'espère. Alors, avec nous, donc, pour en parler, nous avions Ariane Gélinas, romancière québécoise, qui va nous parler d'elle-même, se présenter.
Oui, d'accord. Alors, enchantée d'être ici. Je suis une auteure principalement de fantastique. J'ai écrit quelques nouvelles de science-fiction également. Je m'intéresse au polar, à la littérature horrifique. Et je travaille également dans le milieu de l'édition avec différentes revues consacrées à l'imaginaire, incluant bien entendu la SF. Par exemple, la revue Brin d'éternité. Puis aussi, je travaille pour une revue d'art, Le Sabbat.
Et puis Valérie Mangin.
Oui, bonjour. Donc moi, je suis auteure de bande dessinée. Et je fais beaucoup de science-fiction et beaucoup de péplum aussi. Et je m'interroge principalement sur les rapports justement entre l'histoire et la science-fiction. Et parallèlement à ça, j'ai aussi été éditrice. Et en ce moment, je participe aux états généraux de la bande dessinée, donc qui réfléchissent sur ce qu'est un auteur et surtout ce qu'il va devenir.
Laurence Funère.
Bonjour. Alors, j'ai été ancienne dessinatrice de BD aussi. Et illustratrice, j'ai travaillé pour le cinéma. Actuellement, j'écris des romans, en fait, d'une série de science-fiction qui s'appelle Quantica, aux éditions La Talente. Et voilà.
Et c'est parfait. Daniel Martin-Gol.
Oui, bonjour. Moi, j'écris de la science-fiction jeunesse depuis une vingtaine d'années. Et j'ai attaqué récemment une série qui se déroule à la fois dans notre époque et dans le passé. Et je découvre le voyage dans le temps et je découvre aussi les machines du passé. Ça peut être très intéressant d'en parler.
Et d'ailleurs, je vais te poser à toi la première, la question que je vais vous poser à toutes. À l'heure actuelle, Michel. Oh mon Dieu. Dieu, Michel Laframboise.
Oui, bonjour.
À ma honte définitive.
J'ai l'habitude. Je suis la femme invisible. En gros, j'ai été une scientifique, j'ai une formation de géographe et d'ingénieur civil. J'ai donné aux employeurs toutes les chances de m'employer, mais ils me trouvaient un peu trop folle. Donc, j'ai un blog qui s'appelle La Savante folle parce que je continue à faire de la vulgarisation scientifique. Et j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Donc, j'ai fait de la bande dessinée pendant une trentaine d'années. Et puis j'ai commencé à écrire pendant ce temps-là, sans arrêter de faire de la bande dessinée. Donc j'ai 17 romans jeunesse et adultes publiés maintenant, et en science-fiction. Et un de mes éditeurs m'a dit « Ah, ça n'a pas d'allure, Michel, t'es pleine de gadgets. » Parce que j'aime bien inventer des gadgets. Voilà.
Alors du coup, c'est à toi que je vais poser la question. À l'heure actuelle... Oui. Quelle est ta machine préférée, celle dont tu ne te passerais pour rien au monde, dans la réalité, et pourquoi?
Actuellement? J'étais plus partie pour vous parler de mes biottes dentifrices, là.
Mais va déjà.
Oui, bon. Parce que là, c'est juste que c'est un petit peu à froid, moi, je ne vaux rien, OK? Par contre, j'aimerais bien vous parler de mes biottes dentifrices, parce que ça, je déteste me passer le fil dentaire. Je déteste me laver les dents. Et puis là, dans une de mes histoires, il y a 400 micro-robots en dessous d'une de vos molaires qui va à toutes les 6 heures nettoyer toutes les cochonneries sur vos dents et se ranger en laissant un petit parfum de menthe. Mais attention, il faut bien programmer ces robots parce qu'ils sont programmés pour enlever tout ce qui n'est pas les mailles des dents. Donc, imaginez si c'était mal programmé. Il resterait juste des dents puis un squelette.
Valérie, bonjour. Ta machine préférée.
Ma machine préférée, je vais faire une réponse très terre-à-terre après cette intervention. Mais je crois quand même que c'est mon ordinateur, puisque je suis une scénariste de bande dessinée, et donc je passe mes journées à écrire sur mon ordinateur. Et finalement, c'est grâce à lui que je peux exprimer mes idées et via Internet, les faire connaître un peu à tout le monde. Donc c'est vraiment ça, ma machine préférée, celle dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. Quoi.
Laurence ?
Eh ben moi, c'est pareil, vu que j'écris. Hein, donc, si j'écris pas à la main, donc j'écris vraiment. Je peux pas imaginer écrire. À l'époque, j'écrivais à la main. Depuis que j'ai une dizaine d'années, j'écris directement à l'ordinateur. Je peux juste. J'ai l'impression que pour penser, je dois passer par mon ordinateur presque. Donc, oui, l'ordinateur, en fait, oui. Voilà.
Ariane ?
Oui, j'ai longtemps écrit à la main. Alors, spontanément, j'aurais pas répondu l'ordinateur, mais en vous écoutant, quand même, il faudrait que j'avoue que depuis que j'écris plus à la main, je me passerai pas de mon ordinateur. Mais de façon très pragmatique, j'ai passé spontanément au micro-ondes et à ses compagnons, les plats surgelés. Alors, vous aurez compris que j'ai pas le temps de cuisiner. Il faut avouer que j'ai pas nécessairement les compétences extrêmement développées à ce niveau-là, mais je crois que personnellement, sans micro-ondes et sans plats surgelés de temps en temps, vraiment, ça irait très mal. Alors, merci, micro-ondes.
Prends un homme à la maison, tu verras, pour faire la cuisine. Ça marche bien aussi.
Daniel.
Moi, je pourrais pas me passer de ma voiture. C'est la seule machine qui me donne l'impression d'être un pilote. J'ai beaucoup travaillé sur les pilotes de vaisseaux spatiaux et j'avais pas les connaissances scientifiques pour devenir astronaute ou quoi que ce soit. Et quand je suis dans ma voiture, j'ai l'impression de commander vraiment une machine. Et je pourrais pas me passer de ma voiture. J'écrirais plus volontiers à la main. Je ferais la cuisine. Je laverais le linge. Je laverais la vaisselle. Mais je ne pourrais pas me passer d'un véhicule avec quatre roues pour me transporter quelque part.
Très bien, mais il nous fallait une conductrice. Ah. Absolument.
Bon, finalement, c'est ça. Je m'en passe pas. Ma tablette.
Et alors, la machine que vous jetteriez par la fenêtre en poussant des grands cris sauvages de joie extatique, ça serait laquelle ? Tu as déjà répondu, Michel, donc qui se lance dans jeter une machine par la fenêtre ? Oula !
Il n'y en a aucune qui mérite ça. Si. Mon épilateur électrique, peut-être ?
Ah oui !
J'avoue que ça doit être la machine qui m'a fait le plus souffrir ces 20 dernières années, donc peut-être ça. Si on pouvait renoncer à la séduction obligatoire et au fait, pour les femmes, que c'est quasiment obligatoire de nos jours de s'épiler, ce serait pas mal.
Moi, je m'en fous, j'ai du poil aux pattes. Quand je m'ennuie, je me fais des petites nattes.
Moi, si je me base sur ma première expérience avec une machine à coudre, j'aurais peut-être tendance à répondre à la machine à coudre, qui, après l'avoir utilisée deux fois, dans mon cas personnel, je l'ai remisée. Sauf qu'au sens large, vraiment, on serait très malheureuse sans machine à coudre.
Laurence?
Alors, moi, il y en a trois. C'est le micro-ondes, parce que j'en ai un dans mon appart depuis 12 ans et je ne l'ai jamais ouvert. Bref. Autrement, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? La machine à coudre, j'en ai une aussi, je ne l'ai jamais utilisée, donc la même chose, voilà. Et puis autrement, c'est un peu les. Et puis oui, les robots électroménagers, parce que j'en ai aussi dans mon appartement, je ne les ai jamais utilisés non plus, donc inutile pour moi. Voilà.
C'était donc, des cadeaux empoisonnés ?
Ils étaient dans l'appart, en fait, quand je suis arrivée. Donc, ils sont restés à l'endroit où ils étaient, en fait, voilà.
Et toi, Daniel ?
J'ai du mal à imaginer que je puisse jeter une machine. Je suis très machine, moi. J'ai été élevée dans une usine où on fabriquait des machines. On fabriquait des tracteurs enjambeurs pour la vigne dans ma famille. Et je fais partie d'une famille qui a justement procédé à la mécanisation du travail. Donc j'ai toujours eu un lien très particulier avec les machines. Mais j'avoue que quelquefois, quand je vois la tête de certains hommes politiques sur mon téléviseur, j'ai vraiment envie de le foutre par la fenêtre. Oui.
Alors, de façon plus littéraire, j'aimerais que vous nous parliez maintenant de la place de la machine dans votre œuvre. Alors, Daniel, toi, justement.
Je vais vous faire rire, moi, quand j'ai vu l'intitulé de la table ronde, j'ai pensé tout de suite que j'allais pouvoir parler de la brouette. Alors,
C'est une merveilleuse machine.
Oui, c'est une merveilleuse machine qui a été inventée au milieu du XIIIe siècle. Et énormément de gens pensent que la brouette, ça date de Mathusalem, si j'ose dire. Et pas du tout. Comme je suis en train de travailler sur une série de livres qui se situe dans le cadre du château de Guédelon, je fais énormément de recherches sur le XIIIe siècle. Et j'ai découvert avec énormément de surprise que la brouette datait de cette époque-là. Et en lisant des documents là-dessus, je me suis dit que ça ne pouvait être qu'une femme qui avait inventé ça. Parce qu'elle voyait les hommes depuis longtemps se servir de la roue, elle voyait les hommes se servir de caisse, mais elle avait peut-être, des difficultés à transporter des choses lourdes. Et elle s'est dit que si elle mettait une roue en face d'une caisse, avec deux manchons pour arriver à soulever l'ensemble, elle allait pouvoir transporter des choses beaucoup plus lourdes et se fatiguer un peu moins. Parce qu'en fait, disons-le franchement, les machines, c'est pour nous épargner de la fatigue à 99%. Et donc la brouette me semble un bon exemple de machine qui a certainement été pensée à un moment ou à un autre par une femme.
Ariane ?
Alors, si je me reporte à mon œuvre spécifique, là, dans mes écrits, je me suis beaucoup intéressée à l'hydroélectricité, version québécoise, et notamment dans ma trilogie sur les villages fantômes du Québec. Au Québec, on a la particularité souvent qu'il y a eu des villages qui ont été construits pour des raisons économiques purement, et c'était une mono-industrie, exemple une compagnie minière, alors pour la foresterie. Et puis, sitôt que le filon est tari, si on parle par exemple de mines, eh bien, la ville, elle va fermer. Et puis, dans le nord du Québec, avec la baie de James, avec des immenses chantiers hydroélectriques, ça vaut la peine d'être vu, ça a complètement modifié le paysage, et j'ai repris ça dans le premier tome de ma série. Je trouve ça particulièrement inspirant, de même que le côté exploitation minière. Ça aussi, ça m'a beaucoup parlé, donc, et quelles machines sont impliquées par le fait même. Bien entendu, comme je ferai souvent avec le fantastique, c'est pas toujours... des fois, je vais me permettre quelques petites incartades, comme par exemple la façon dont, dans mon roman qui vient tout juste de paraître, qui s'appelle « Les cendres de Sedna », qui est un roman fantastique, on a des baleines mécanisées, mais leur fonctionnement a quelque chose de fantastique, clairement. Donc, c'est quelques-uns des éléments qui m'interpellent.
Mais il y a énormément de machines magiques, de toute façon. Mmh. Il y a des films qui vont être présentés, la Chronos, Guillermo del Toro, où tu as une espèce de scarabée mécanique tout à fait fantastique.
Oh oui, ça m'interpelle beaucoup. L'alliance aussi entre le monstre et la machine.
Oui, c'est passionnant, ça. Michel ?
Oui. La question, c'est quoi? C'est dans les machines, dans nos histoires?
Oui.
OK. Alors, à part les biottes dentifrices, une de mes inventions favorites, c'est l'ascenseur spatial écologique pour envoyer des trucs en orbite sans polluer. Alors, oui, c'est possible. On pourrait le faire avec notre technologie. Ça prend des gros champs de capteurs solaires pour accumuler l'énergie. Dans mon roman La quête de chasse, le premier de la pentalogie, il y a une description, disons, assez détaillée d'un tel ascenseur spatial pour une civilisation de super jardiniers, là, disons. Et puis, donc, votre champ de capteurs solaires recueille l'énergie. Ça donne la puissance à un laser qui va pousser un engin, donc un ascenseur spatial, le long d'un trajet sur un fil, là. Et donc, la difficulté, c'est de ce fil-là, justement, comment on dirait ça? Ça fait longtemps que je l'ai écrit, là, cette trajectoire, donc ce fil, il faut quand même le déployer depuis l'orbite. Fait que ça serait la partie un peu plus polluante. Mais un coup que c'est déployé et que l'ascenseur peut monter et descendre, parce que bon, ceux qui connaissent le sujet savent que ça prend... tu dois passer le point d'orbite géostationnaire là, et pour avoir un contrepoids très loin, très éloigné. Mais bref, un coup que c'est en place, là, c'est votre laser nourri par le champ de capteur solaire qui va pousser votre cabine. Dans mon livre, de façon réaliste, c'est assez lent. C'est le seul défaut de cet ascenseur spatial-là. Ça leur prenait comme un jour et demi pour monter jusqu'à l'orbite géostationnaire. Voilà.
Et comment est-ce que tu l'as conçu, cet ascenseur spatial? Tu as interrogé des scientifiques?
Lu beaucoup.
Oui.
Donc, j'ai une certaine... parce que j'ai une formation, mais je ne suis pas directement formée dans le domaine. Et dans le cas de la quête de chasse, Ce que je n'ai pas dit ici, c'est que leur ascenseur spatial, c'est une espèce de plastique à mémoire. Le fil est un plastique à mémoire de forme. Donc, il y avait aussi quelque chose qui se proche, donc qui faisait gonfler le fil juste en dessous de la cabine de façon à ce que ça monte. Donc, l'énergie était transmise au fil et non à la cabine. Mais enfin, c'est des petits détails, mais ici, de façon réaliste, ça prend quand même. Parce qu'en ce moment, il y a des concepts d'ascenseur spatial, mais il faut vraiment une force mécanique. Ils ne la trouvent pas nécessairement de façon écologique. Voilà.
Merci. Laurence?
Oui, alors la machine et la technologie en général, c'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée quand j'ai écrit Quantica. Donc il y a une série qui se passe dans 300 ans sur une exoplanète gelée. Et dans ce livre, j'ai opposé en fait une civilisation technologique, la nôtre, sur une planète de glace où tout ce qui est machine, technologie tombe en rade, enfin, on va dire, à cause des températures vraiment qui sont beaucoup trop basses. Donc ils ont dû inventer toute une technologie pour pouvoir faire face à ce problème de la glace. Ils ont inventé la psychrolite, c'est un matériel spécial, etc. Et opposé à cette civilisation humaine, technologique, j'ai créé une civilisation, les Timkans, qui, eux, ont une technologie qui est basée sur l'animal. C'est-à-dire que, par exemple, les vaisseaux spatiaux, on ne les construit pas, mais on demande aux atomes de les faire pousser. Enfin, on demande à l'atome de créer la forme qu'on veut. C'est une sorte de connexion ou de dialogue entre la matière et l'énergie et la pensée. Donc, en fait, c'est une technologie qui est très différente. Les humains ne l'appellent même pas technologie parce qu'ils n'arrivent pas à le comprendre. Et en fait, c'est ce qui m'intéressait, c'était justement de dépeindre cette relation entre une civilisation technologique qui s'apparente à la nôtre et une civilisation qui aurait suivi un chemin très différent, en fait. Où la machine, en fait, n'a pas vraiment existé. En fait. C'est une extension de l'être vivant. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire par rapport à
la machine. Et sur quoi tu t'es basée pour la concevoir?
En fait, j'ai réfléchi à ce que c'est que l'être vivant, j'ai réfléchi à ce que c'est que la pensée, comment est-ce qu'on pourrait agir, on va dire au niveau quantique, puisque ça parle beaucoup de physique quantique, entre la conscience et justement et l'énergie, quoi. Donc c'est plus dans ce sens-là.
Et c'est important pour toi de mettre du quantique dans ton œuvre.
Voilà. Oui, c'est fondamental. Je ne sais pas pourquoi, oui. En fait, j'ai toujours été fascinée par ça depuis toute petite, même en enfant, en fait, je m'interrogeais sur ça, c'est-à-dire sur c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière la matière, qu'est-ce que c'est la matière, et il y a quoi derrière, est-ce que c'est vraiment de la matière? C'est une question que je me suis posée dans mes plus jeunes années, j'étais encore à l'école primaire, ce qu'on dit en Suisse, parce que je suis suisse, hein. Et je me disais, mais toujours, c'est quoi ça? C'est quoi la machine? Et puis, c'est quoi la technologie? Et comment on interagit sur la matière, sur l'énergie? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Comme si c'était quelque chose d'extérieur qu'on doit construire, mais plutôt quelque chose qui viendrait de l'intérieur, et une transformation en fait, du vivant. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, que je continue d'ailleurs dans la suite de Quantica. C'est une problématique qui m'intéresse. Et l'idée de faire... d'avoir des vaisseaux spatiaux qui sont en fait un cadeau des atomes, en fait. C'est-à-dire tout ce qui est technologie, c'est un échange, c'est un dialogue directement au niveau de la particule, on va dire.
D'accord, donc voilà. Le quantique, pour toi, c'est un personnage à part entière.
Mais ce qu'on en fait, oui.
Oui.
Ouais, tout à fait, voilà. Donc mes machines, sont Timkan, sont très très différentes des machines humaines. Et d'ailleurs, ça pose un énorme problème de parler de science. Parce qu'on se trouve avec deux civilisations. Et bien sûr, l'humain veut savoir, parce que ces Timkans ont une avance technologique apparente. Ils ont le vol interstellaire aisé, on va dire, etc. Et l'humain, forcément, est fasciné, parce qu'ils sont sur cette pauvre exoplanète qui se trouve à quelques années-lumière de la Terre. Eux, ils aimeraient bien aller plus loin. Et ils aimeraient bien interroger cette civilisation qui a l'air de maîtriser le vol intersidéral, si ce n'est galactique, on va dire, intergalactique. Et malheureusement, il y a un problème, parce qu'en fait, la technologie est tellement différente. C'est-à-dire, on dirait qu'il n'y a pas de langage scientifique. Qui est l'appui de la technologie, il y a un langage poétique. Et du coup, c'est ça qui m'a amusée. Voilà. C'est l'idée de la machine qui est une machine organique, mais ça va encore plus loin qu'une machine organique. Ce n'est pas une machine, en fait. C'est une extension de l'humain.
Mais est-ce que la machine n'est pas une extension de l'humain?
Aussi, oui, tout à fait.
Qu'en penses-tu, oui, Valérie?
Je me suis peu intéressée aux machines pour elles-mêmes, en fait, mais plus dans ce qu'elles nous révélaient de l'humain, justement, dans notre rapport avec elles. C'est-à-dire que dans mes histoires, il y a très souvent des machines qui n'existent pas encore, qui n'existeront peut-être jamais, mais qui nous aident à nous parler de nous-mêmes. Par exemple, dans Le Fléau des Dieux, j'ai inventé Il y a une machine qui rend les hommes immortels, en fait, qui les transforme littéralement en dieux. Et c'était l'occasion pour moi de m'interroger qu'est-ce que l'homme ferait s'il devenait tout-puissant, en fait. J'ai répondu à un régime totalitaire qu'il faut absolument renverser, mais ça, bon, ça, c'est une autre histoire. En fait, la machine sert plus, voilà, de révélateur à l'humain. Ou par exemple, quand j'ai adapté Rayon pour Siddhar de Stéphane Vull, où on a un robot qui est exactement le double de son maître humain, ça nous interroge beaucoup sur qu'est-ce qui fait l'humain finalement par rapport au robot. Est-ce que c'est la chair? Est-ce que c'est l'esprit? Quels sont aussi nos rapports avec cet autre finalement qui est identique à nous mais en même temps extrêmement différent? Et finalement, c'est plus ça qui m'intéresse dans la machine, en fait. Quels sont nos rapports avec elle? Qu'est-ce qu'elle nous apprend de l'humain? Que vraiment la machine apprend au sens premier technologique du terme.
D'accord. Alors justement, oui.
Je voudrais juste reprendre la parole parce que j'ai parlé de la brouette tout à l'heure, mais je n'ai pas parlé de mes machines dans mes romans de science-fiction.
C'est vrai, mais je n'allais pas te dire que tu étais hors sujet, ma chérie.
Et je suis en train de me rendre compte en écoutant mes collègues et amis à côté en train de parler que moi, je me suis beaucoup interrogée sur l'interconnexion entre l'humain et la machine. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai écrit Les abîmes d'outre-mer où l'humain pénètre en quelque sorte dans ce qui est censé être un vaisseau spatial. Je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est cette interaction-là et dans les abîmes d'outre-mer, du pilote vers son vaisseau, entre guillemets. Et puis, dans Charlex, par exemple, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire j'ai fait entrer de la nanotechnologie à l'intérieur du corps d'une jeune femme pour essayer de voir jusqu'où ça pouvait aller, ce qu'on appelle en fait le transhumanisme. Et que ce soit dans les abîmes d'outre-mer ou dans Charlex, mon interrogation principale, c'est cette interaction, en fait, qui va peut-être jusqu'à l'osmose, jusqu'à la pénétration de la machine dans le corps humain, qui m'interpelle beaucoup, parce que j'ai dit que j'aimais les machines, mais je m'en méfie, en fait, énormément. Parce que je n'aimerais pas trop qu'elle pénètre dans mon corps, justement, par exemple. Et j'ai essayé de voir ce que ça donnerait si je confrontais un personnage à ce genre de situation.
Donc les nanorobots laveurs de dents de Michel, tu n'en veux pas. J'ai bien compris.
Non. J'ai ma brosse à dents, ça va très bien.
Alors, à propos de ce que les machines révèlent de l'humain, ça sera la petite question un peu provoque de la table ronde. Dans la SF, il y a énormément de robots à plaisir, n'est-ce pas? Et en général, à destination des hommes, la plupart du temps. Or, il se trouve que dans la réalité consensuelle, celle que nous partageons, en fait, les machines à plaisir, elles sont plutôt à destination des femmes. Si vous mettez côte à côte les sextoys qui existent sur cette planète, vous verrez que, en majorité, ils sont pour nous les filles. Et ils sont peut-être les plus anciens, en fait. Et alors, d'après vous, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette disparité, déjà ? Est-ce qu'elle a un sens du point de vue de l'indépendance féminine, ou au contraire, est-ce que c'est un signe, éventuellement, de sa suggestion ? Alors, qui se lance là ? Waouh ! Le sextoy est-il l'avenir de la femme ?
Excusez, mais j'ai tellement d'autres choses à faire que de me masturber, s'il vous plaît. Ouais, faire une belle page de bande dessinée, là, il n'y a rien qui est plus jouissif.
C'est exactement
moi.
La même chose. Je suis désolée de te le dire.
Fait que, voilà.
C'est toujours compliqué de répondre à ce genre de choses, mais c'est vrai que déjà, on peut se demander pourquoi les robots sont sexués à la base, puisque créer un être mécanique, a priori, il n'a pas de genre, enfin, pour être ni homme ni femme, ou les deux à la fois, ou tout à la fois. Mais c'est vrai que le premier robot qu'on a vu au cinéma, c'était dans Metropolis, c'était bien une femme.
Qui est là,
oui.
Et qui nous regarde d'un air bizarre.
Et c'est vrai que souvent, les robots sont des femmes, alors peut-être que les sexués, ça rend plus facile la communication avec eux en général. Et sont des femmes parce que, apparemment, dans l'imaginaire, l'objet de plaisir est une femme. Donc on peut se demander peut-être que ce sont des films destinés d'abord aux hommes hétérosexuels en manque de compagnie féminine. Mais c'est vrai que dans la réalité, c'est un peu différent. Alors peut-être que dans la réalité, il y a peu d'offres finalement pour satisfaire les femmes insatisfaites du point de vue. Il y a peu d'humains, en fait, j'allais dire, peu de prostitution masculine ou d'équivalent équivalent pornographique pour les femmes, alors peut-être que trouver un ersatz mécanique peut être la solution à ça. En fait, ça doit s'adresser à deux publics différents, le robot dans l'imaginaire et l'objet de plaisir sexuel dans la réalité.
Ah, ça peut tout à fait, ça. Qu'en penses-tu, Laurence ?
Oui, c'est une bonne question. oui, je... Par rapport à la deuxième partie de la question, par rapport au sextoy, je me suis demandé, bon, peut-être... Est-ce que ça vise à simplement de rendre la femme plus autonome par rapport à l'outil masculin, on va dire, hein? Je ne sais pas. En fait, je ne me suis jamais vraiment posé cette question. L'idée aussi de la femme robot, ben déjà, on a des poupées gonflables féminines, hein, et on a des robots féminins. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a plus de robots féminins pour donner du plaisir ou pas? Moi, je pensais que bon, peut-être l'idée de la poupée gonflable, c'est une extension de la poupée gonflable. Mais autrement, c'est vrai que... Voilà, c'est à peu près ce que j'ai... Il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus, là. Je vais laisser tourner, là.
Ouais, je vais continuer d'y réfléchir, je pense, après la table ronde. Mais je pense qu'avec le mot « autonomie », tu touches à quelque chose. Et ça me fait penser un petit peu aussi à toute l'idée de la contraception. Est-ce que c'est... Oui, est-ce que ça peut impliquer pour l'autonomie féminine par rapport à ça? C'est sûr qu'il y a quelque chose à voir dans ces eaux-là par rapport à... Oui, j'ai complété. On a répondu à tout.
Je pense que tout ce qui peut libérer la femme d'une contrainte de relation avec qui que ce soit, enfin bon, c'est une bonne chose, à la limite. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, c'est l'humain que je privilégie. Donc, j'arrive pas à imaginer qu'on puisse, par exemple, écrire une histoire autour d'un personnage qui serait en complète autarcie, enfin, etc., qui... Je ne me vois pas écrire seul sur Mars au féminin, quoi. Ça serait pour moi très difficile, je pense, enfin, d'imaginer une histoire avec un personnage qui serait obligé complètement d'être coupé des autres. J'aurais du mal à faire ça.
Mais ça existe déjà. Tu as Face au feu du soleil, d'Isaac Asimov,
oui.
Où les gens ne vivent seuls avec leurs robots.
Oui. Voilà. Oui, je sais bien, mais ce n'est pas le genre de choses...
D'ailleurs, oui, non.
Oui, ça a déjà été fait, voilà. Bien sûr. Mais je ne sais pas. Pour moi, la relation avec autrui est l'essentiel de la base de la vie. Enfin, la vie est échange. La vie n'est jamais solitude. Voilà. Et c'est... Enfin bon, voilà. C'est ça. Je pense que c'est une belle formule. Tiens, je vais la retenir.
C'est vrai que l'objet de plaisir mécanique, c'est un peu le synonyme de l'échec de la relation humaine, puisque finalement, ce qu'on n'arrive pas à trouver avec un partenaire humain, on est obligé de le chercher avec un objet mécanique, finalement, qui évite... Bon, évidemment, l'objet est toujours disponible, toujours prêt, vous satisfait autant que vous le voulez, quand vous le voulez, etc. Donc finalement, il y a beaucoup moins de soucis qu'avec un humain en face de soi, mais c'est une relation qui est aussi beaucoup moins riche, qui est même totalement nulle. On n'a pas de relation personnelle avec un objet. Enfin, pas avec un sextoy, en tout cas. Avec un robot, peut-être, quand on aura des IA, peut-être qu'on pourra avoir des relations aussi riches avec des partenaires robotiques qu'humains, évidemment, mais on en est loin.
Tu voulais dire quelque chose, Laurence ?
Non, je réfléchis, là, j'ai une idée, mais je la laisse mûrir un petit peu.
Tu la laisses mûrir ? Alors, justement, puisqu'on parlait d'autonomie, on va rebondir, si j'ose dire. Enfin, rebondir sur les sextoys, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, pas en public. Qu'est-ce que les femmes peuvent attendre du réplicateur utérin ? Voilà. Est-ce que les femmes ont envie du réplicateur utérin ? Est-ce que les hommes ont envie du réplicateur utérin ? Et de quelle manière est-ce que ça pourrait faire évoluer le modèle parental qui en a un peu besoin, quand même ? Faut quand même le dire.
L'utérus artificiel ?
Oui, oui, oui. Je parle de l'utérus artificiel, hein, au cas où j'ai perdu quelqu'un en route. Voilà. C'est le terme réplicateur utérin vient de Loïs McMaster-Bujold dans sa série Miles Workosigan, dont le héros, le protagoniste, Miles, doit sa survie à son transfert dans un réplicateur utérin. Voilà.
Ah, moi, c'est l'idée qui germait, justement.
Ah, voilà. Ben, ça tombe bien.
Ouais. Alors, si je me permets, est-ce que je peux commencer ?
Ben, va.
Je me suis posé cette question parce que, en fait, j'ai lu deux, trois trucs, justement, sur ce... Comment t'appelles ? L'ectogénèse, je crois. C'est la reproduction... Enfin, la maturation, en fait, du fœtus hors du corps de la femme. Et je me suis posé la question parce que j'ai lu un article où c'était marqué « Enfin, on va libérer la femme ». Et c'était, c'est-à-dire la femme enfin libre parce qu'elle n'aura pas besoin justement de porter l'enfant dans son ventre et elle pourra faire d'autres choses, en fait, comme la machine à laver, comme la machine à coudre, enfin tout ça. Hein. Et je me suis posé la question en tant qu'auteur de science-fiction, est-ce que c'est la vraie question ? Est-ce que c'est pas plutôt, enfin, on va se libérer de l'animalité ? Et je me suis dit, mais parce qu'en fait, il y a toujours dans notre culture, il y a toujours eu, ouais, l'humain. On est un être humain, c'est l'être élu en fait de Dieu qui a la pensée. Et puis à côté, il y a les animaux. Et nous, en tant qu'être humain, en tant que femme, etc., qui nous reproduisons et portons les enfants, ben on est vraiment dans l'animalité. Je me suis posé la question, est-ce que c'est la question sous-jacente, c'est pas plutôt ça ? Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais la plupart des animaux en fait sur Terre sont ovipares. Ne sont pas vivipares. Donc la question, je la reformulerai en me disant, est-ce que c'est pas se libérer du statut de mammifère ? Comme on voit dans les films de science-fiction, Alien, qu'est-ce que c'est ? C'est un corps étranger dans un corps, en fait. Donc quelque chose de repoussant. Il y a quelque chose de repoussant, en fait, dans la viviparité. Donc voilà, c'est une question que je me suis posée par rapport à justement l'idée, en fait, de l'utérus artificiel. Autre question que je me suis posée, je me suis dit, bah, justement, bah, comme disait tout à l'heure Daniel, en fait, c'est oublier en fait que dans les espèces animales, il y a en général, on va dire, à part certaines espèces, un mâle, une femelle. Donc c'est encore créer une nouvelle espèce, c'est-à-dire oublier en fait la différence comme complémentarité et faire quelque chose justement d'une espèce où justement on sort encore plus de ce statut en fait standard de l'être vivant qui est complémentaire entre un mâle et une femelle. Donc ça, c'est les questions que je me suis posées par rapport à. Ça va assez loin. En tant qu'auteur de science-fiction, j'ai envie de pousser vraiment beaucoup plus loin en fait le questionnement que simplement ce qui m'avait un peu interpellée dans les articles. Voilà, c'est la libération de la femme, c'est l'utérus, etc. C'est artificiel. Voilà, c'est les questions que je peux me poser. Je ne sais pas si vous avez envie de développer.
Valérie ? J'ai bougé, c'est pour ça qu'on me tend le micro.
Oui.
Oui, c'est vrai que c'est une bonne question, mais enfin, faut quand même pas occulter que le fait que ça sera des Enfin, être une réflexion pragmatique aussi vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que l'utérus artificiel permet aussi de sauver beaucoup de grands prématurés, très, très prosaïquement. Quoi.
Femmes.
Et des femmes aussi, dont les grossesses peuvent être dangereuses. Et aussi d'aider, bien sûr, les femmes stériles, enfin, des tas d'applications médicales comme ça.
Là, c'était pour pousser très loin le truc.
Oui. Ça règle le problème éthique de la gestation pour autrui.
Oui, aussi. Ça en ouvre un autre, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de religions qui sont opposées, évidemment, à l'utérus artificiel, de même qu'elles le sont contre la gestation pour autrui. Évidemment, ça pose, évidemment, en allant plus loin, la question de la similitude homme-femme. Est-ce que l'homme et la femme peuvent être égaux en étant différents ? Est-ce qu'on doit souhaiter qu'ils se rapprochent ? Mais après tout, est-ce que la grossesse et l'enfantement sont le propre de la femme, finalement ? Est-ce qu'on peut réduire la nature féminine à ça ? Est-ce qu'en privant entre guillemets la femme de ses grossesses et de son accouchement, est-ce qu'elle reste une femme ou pas ? C'est un peu. Bon, je pense pas qu'on puisse réduire un être humain et une femme à sa nature. Donc ça ne me dérange. L'utérus artificiel ne me dérange pas du tout, mais c'est vrai que c'est une position peut-être assez radicale, qui peut être assez gênante. Mais c'est vrai que je pense pas qu'on en ait besoin. Quoi. Je vois surtout le progrès effectivement qui permettrait de libérer les femmes pour le coup. Même si évidemment ça pose aussi la question de l'incarnation. En se libérant de la grossesse et de l'accouchement, on se libère de la chair aussi, et là ça renvoie à quelque chose qui peut être très moyenâgeux comme idée, à savoir que finalement on n'aurait peut-être même plus besoin de sexe, là ça fera plaisir aux catholiques, mais on n'aurait plus besoin de sexe pour enfanter, donc on n'aurait plus besoin du sexe du tout. C'est une position extrémiste, hein, bien sûr, ça pour, je vais jusqu'au bout du raisonnement, mais c'est vrai que ça peut inciter certains extrémistes à penser ça aussi, quoi. Donc c'est un peu un revers de la médaille qui est possible également, oui.
Laurence.
Non, je laissais.
Ariane.
Oh, vous avez bien fait le tour de la question. Et puis, d'ailleurs, en tant que quand même assez grande prématurée, ça m'a fait réfléchir dès le départ tout ça, la nécessité qu'a eu la machine, en fait, dans le fait que je sois ici même aujourd'hui. Le rapport à la mère, forcément, lorsque tu passes plusieurs jours comme ça, donc, loin d'elle, et puis pour assurer la survie, c'est clair que ça a des conséquences. Et puis, je me suis souvent demandé par la suite, est-ce que un peu ce qu'on appelle la chaleur maternelle, tout ce qui était l'humanité, les rapports humains après l'accouchement, qu'est-ce que ça peut biaiser par rapport à ça? Si on parle d'un utérus externe, bon, je te suivais quand même, à part lorsque tu as poussé dans le côté très radical du raisonnement, bien sûr. Je pense que c'est quand même d'encourager, ça serait pour être bénéfique d'encourager ce progrès-là pour pouvoir. Il y a quand même certaines contraintes qu'on a forcément lorsqu'on est enceinte, et puis ça permettrait de vérifier de façon au plus près, bien entendu, des problèmes qui pourraient avoir lieu pendant cette période-là.
En fait, t'es dans mon corps, mon choix.
Oui.
Michel?
Oui. Oh, excusez, c'est parce que je suis trois questions en retard là-dessus, là, mais c'est parce que je viens de dessiner. Ce qui serait bien, y a un mot, quand vous entendez autonomisation, excusez-moi, je pense que je ne parlais pas assez fort tout à l'heure. Je vois aussi, la seule chose qui me fait peur, c'est toujours la dépendance. Parce que moi, j'adorerais ça, là. Je viens de le dessiner ici, d'ailleurs, mais je ne sais pas si on peut le montrer sur l'écran. Mais j'adorerais ça, un utérus portable. Alors, tu le portes, et puis à un moment donné, oups, le boulot. Donc, tu prends ton utérus portable, ploup, tu le branches, et puis là, tu t'en vas au boulot. Alors, j'avoue que ça, c'est tentant. Il y a une composante quand même, il y a de la sécurité là, à prévoir, des systèmes redondants, je pense à tout ça, je suis ingénieure de formation. Mais ça, c'est très tentant et ça peut aussi marcher pour les hommes. Bon.
Alors, on peut transmettre.
En fait, on rêve d'être ovipare.
On peut partager, donc.
Oui, exactement. Voilà, exactement. Je vous montrerai le dessin tout à l'heure. Je pense qu'on est en dédicace là. Alors, enfin, moi, je suis en dédicace.
Tu feras des utérus artificiels en dédicace, c'est merveilleux. Daniel.
Je voulais dire que, l'image de l'utérus artificiel pour moi, c'est un appareil transparent, parce que j'aimerais voir le bébé se développer, grandir, enfin bon, je sais bien qu'il y a plein d'images, il y a plein de photos, on voit plein de choses maintenant, mais une vraie séquence de science-fiction pour moi, ça serait effectivement de voir un bébé en train de se développer. Et je crois que, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la vie en fait, de voir la vie en train de croître, de naître, etc. C'est une très belle image, un utérus artificiel. Et puis au moins le papa verrait aussi exactement en direct comme la maman. Mais c'est une machine qui. Enfin, autour de cette machine, ce qui me ferait peur, c'est le choix du sexe de l'enfant. J'ai toujours craint beaucoup que si vraiment un jour on pouvait choisir le sexe de l'enfant dès la conception, il y a vraiment une disparité qui puisse s'installer entre hommes, femmes. Tu parlais tout à l'heure de la Chine et des petites filles.
On n'a pas besoin du réplicateur utérin pour ça. L'échographie s'en charge super bien, je te jure. Et lorsqu'ils n'ont pas l'échographie, quand les enfants naissent, les petites filles indiennes ont un taux de survie absolument effarant et dramatique.
Ouais.
Donc, tu vois,
on y est
je
déjà.
Crois que là, le réplicateur utérin, on peut craindre d'autres choses du réplicateur utérin.
Oui.
Par exemple, on peut craindre qu'à partir du moment où on peut construire un être humain à l'intérieur d'une boîte, on peut commencer à penser à le modifier. C'est ce qui se passe dans Le Meilleur des Mondes, par exemple. Et là, je te suivrai. Mais pour l'instant, juste on substitue, qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà.
Si ça peut sauver la vie de la mère, de l'enfant, c'est un appareil absolument merveilleux. Il faut le créer, celui-là, si ça peut permettre de sauver des vies. J'en suis tout à fait... je suis partisane totalement. À partir de là, il y a tellement de questions.
Je vais faire un petit sondage, là. Attention, c'est à vous. Qui est pour le réplicateur utérin dans la salle? Levez la main. C'est bien, vous pouvez rester. Je suis un peu dirigiste, pardon.
Il faudrait faire relever la main aux mêmes personnes, qui sont pour le réplicateur utérin et qui sont des femmes.
Alors
Oui, ça s'équilibre à peu près.
Ah ouais. Vous pouvez toujours rester. On vous garde.
D'ailleurs, c'est amusant, parce que je crois que les scientifiques qui ont poussé le plus loin la recherche sur les grossesses extra-utérines, je veux dire, dans des réplicateurs utérins, sont des femmes, justement.
Ah, c'est étrange, ça.
Il me semble, oui. Mais c'est vrai que Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même une question, la question du choix du sexe de l'enfant se pose d'autant plus si le réplicateur utérin existe, puisque s'il existe, on n'a plus besoin des femmes dans l'absolu. Parce que la seule chose physiologique que les femmes font et pas les hommes, c'est bien porter les enfants et accoucher. Si on a un réplicateur utérin, on n'a plus besoin techniquement d'avoir de sexe dans l'humanité.
Tu sais, je crois qu'un monde qu'on passerait à regarder des coupes de football en buvant de la bière serait d'une tristesse redoutable.
Je dis pas le contraire, mais dans un monde qui a déjà tendance
sexiste, pardon.
Dans un monde qui a déjà tendance à privilégier les hommes et qui choisit les hommes dans beaucoup de pays, le réplicateur utérin ferait sans doute accélérerait beaucoup, sans doute beaucoup cette tendance, malheureusement.
Bah, le résultat des courses, c'est qu'en Chine, la disparité homme-femme fait des femmes des esclaves. Elles se sont des denrées, on les vend. Puisqu'elles sont trop peu nombreuses. Donc on croirait que ça pourrait accroître leur valeur, et en fait c'est l'inverse qui se passe. Alors là où on m'a pas totalement répondu, c'est qu'est-ce que vous voyez comme évolution du modèle parental dans un modèle pareil, un modèle où tout le monde pourrait avoir le choix de l'utérus portable de Michel. Donc du coup,
je crois que ça égaliserait les rapports père et mère, justement, parce que si la mère ne porte plus l'enfant, elle aura sans doute les mêmes genres de rapports qu'avec lui, que le père, finalement, avec sans doute plus de recul. Un peu. Alors, je ne suis pas mère moi-même, donc je ne peux pas dire ce qu'il y a d'irréductible dans le rapport de la mère à l'enfant de si particulier, mais c'est sans doute un rapport qui s'équilibrerait plus, qui irait plus vers celui du père, je pense. Oui.
Daniel, qu'est-ce que tu en penses?
Que devient le complexe d'Œdipe dans cette histoire-là, Marcia?
Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer?
Je ne sais pas. L'idée que, bon, il n'y a plus vraiment la relation à la mère, enfin, c'est la relation mère-enfant, à partir de quand se construit-elle, justement? Ça peut être très intéressant, ça. Je connais une jeune femme qui, récemment, a eu une césarienne et qui m'a dit qu'autour d'elle, à la maternité, plein de personnes lui avaient dit « Ah, c'est dommage, en quelque sorte, on vous a volé votre accouchement. » Alors, elle m'a dit, j'avais l'impression qu'il fallait que je reproche au médecin qui m'avait proposé la césarienne qu'il m'avait volé mon accouchement. Elle dit « Non, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. » Elle m'a dit « Je l'ai vécu comme le fait que j'avais une très forte poussée de fièvre. J'étais à 8 jours du terme. J'attendais ma petite fille avec telle impatience que quand on m'a dit, vous savez, on n'arrive pas vraiment à identifier la cause de votre poussée de fièvre, pour nous la meilleure solution pour sauver votre, enfin pour être sûr que tout aille bien pour votre petite fille, c'est la césarienne. Et puis comme elle n'était pas tellement partante dans l'hypothèse d'une péridurale, on lui a dit, comme on n'a pas fait tout ce qu'il fallait avec vous pour une éventuelle péridurale, on va vraiment vous endormir et on va mettre votre fille au monde. Et puis voilà. Et elle n'a pas du tout eu, elle, la sensation qu'on lui volait son accouchement, parce qu'elle a dit, quand j'ai tenu ma fille, enfin, j'étais tellement contente qu'elle soit là, que ça se soit bien passé, etc. Mais elle a ajouté après, c'est ça qui est très intéressant, c'est la petite touche, elle a ajouté... Mais j'ai eu la chance de pouvoir l'allaiter et ça m'a définitivement fait oublier le fait que je n'avais pas eu l'accouchement. Donc, quelque part, la relation mère-fille s'est instaurée par l'allaitement. Peut-être que l'utérus artificiel n'empêcherait pas du tout les montées de lait. Hein. Ça, c'est un problème quand même. Hein. C'est comme le fait de savoir si partir sur une autre planète sans la Lune, il y aurait toujours le cycle menstruel féminin. Hein. Ça, c'est un... Alors, moi, je me suis toujours posé cette question-là. Et puis, moi qui ai créé une planète avec 2 lunes, franchement, c'est un peu, c'est un peu le bordel. Hein. Enfin, pas si moi expression, mais... Et ça, puisqu'on parle justement du corps féminin, c'est aussi, en science-fiction, des problématiques intéressantes, tout ça. Hein.
Rapidement, et puisque j'ai subi une césarienne d'urgence en donnant naissance à mon fils, parce que j'avais travaillé pendant 12 heures là, et tout ça, et j'ai été consciente tout le temps qu'une équipe de femmes, c'était un curieux hasard, d'habitude il y avait des hommes, il n'y avait que des docteurs et des infirmières dans la salle, ils ont travaillé sur mon ventre, et puis j'entendais tout, j'étais les bras en croix, j'étais certaine de mourir, et là je les entendais jouer, puis là mon mari regardait par-dessus. par-dessus la séparation. Il a tout regardé, il me décrivait qu'est-ce qu'il voyait. Et puis, donc, ça a été une expérience. Malheureusement, il y a eu par la suite, j'ai eu comme une hémorragie, alors je n'ai pas été capable d'avoir d'autres enfants. Ça, c'est ma peine. Mais comme Daniel a dit, j'ai allaité mon fils pendant un an à peu près, et ça a été vraiment quelque chose qui a renforcé les rapports, disons, entre nous. Alors, voilà.
Donc, en fait, vous faites remonter le rapport vraiment maternel, finalement, à l'allaitement, toutes les deux-là, clairement. Laurence, tu voulais dire quelque chose?
Non, par rapport à l'oviparité, décidément, c'est mon sujet. Hein.
Oui.
Peut-être que...
Mais vas-y.
Mais non, peut-être, c'est peut-être, peut-être attendre un tout petit peu, c'est peut-être hors sujet, peut-être finir la
non,
question.
Non, mais vas-y.
Non, je me suis posé cette question-là par justement le lien enfant, femme, enfant, etc. Et qu'est-ce que ça donnerait à une civilisation, justement, ben, comme la plupart des animaux sur Terre qui sont ovipares? Qu'est-ce que ça change au niveau des relations, justement? Et quand se crée le lien, justement? Est-ce que, et une civilisation où il n'y a pas, justement, ce lien de mammifères, c'est-à-dire que nous, les mammifères, on porte nos enfants, on les allaite, etc. Ce n'est pas toujours le cas, en fait, des animaux sur Terre. Et une civilisation, justement, bon, je ramène toujours tout à la science-fiction, puisque, bon, voilà...
On est un peu là pour ça, t'inquiète pas.
Voilà. Et j'imagine, ben, toujours dans ma série Quantica, une civilisation qui est ovipare. Et effectivement, la relation de l'éducation, etc., est différente. Tout est différent. Mais est-ce qu'il y a de l'amour? Je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a un amour enfant quand un petit naît dans un œuf? Est-ce qu'il y a quand même l'amour? Est-ce que l'amour se crée? En fait, c'est des questions que je me suis posées en créant une civilisation ovipare, en fait. Voilà.
Mais tu as ça avec l'impression, en fait. Lorsque un petit oiseau...
Oui. L'imprégnation.
Voilà, il regarde.
C'est
le premier truc qu'il voit, c'est maman. Ouais. Alors, même si c'est un lapin tambour.
C'est différent, mais il y a l'amour aussi. Enfin, je veux dire, voilà. C'est une notion d'amour. Et voilà, et en fait, ma civilisation, justement, de Tim Khan, ils ont un amour, mais qui est différent d'une autre, parce que c'est une autre relation, mais c'est pas une civilisation dépourvue d'amour, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est une question que je me pose. Ça m'a interpellée depuis un moment, en fait. Voilà.
Non, tu bougeais pas.
Non. Pas cette fois.
Ouais. Moi aussi, ça m'interpelle tout ça, ben, en n'étant pas mère non plus, puis n'ayant jamais senti la pulsion en tant que telle. Mais peut-être si, justement, il y avait possibilité d'utérus externe et puis de ne pas allaiter, à ce moment-là, peut-être que ça m'interpellerait plus, un peu paradoxalement, avec un peu, ça me faisait penser aux oiseaux qu'on vient de décrire. C'est vrai, j'ai l'impression qu'ils aiment vraiment, ils ont de l'affection, effectivement. Ça ne vient pas de cette proximité nécessairement. Dans tous les cas, d'avoir été porté, d'avoir été nourri, même si c'est sûr que ça peut tisser des liens assez forts. Mais c'est ça, ça se créerait de façon différente et possible aussi de cette façon-là.
J'imagine qu'il y a de l'amour aussi dans les familles où les enfants sont adoptés. Donc,
oui,
on n'a pas forcément
ça.
Besoin
oui.
d'enfanter pour ressentir de l'amour pour un enfant ou...
Le lien biologique n'est pas...
Absolu et...
Ni obligatoire. Oui.
Ni obligatoire, voilà.
Ça prend un village pour élever un enfant. Je trouve que c'est tellement un beau proverbe.
Non. Alors, on va essayer de conclure là-dessus. Alors, est-ce que la machine est l'alliée du deuxième sexe?
Moi, il y a une machine que je voudrais voir inventée. C'est le téléporteur qui trierait en laissant les cellules adipeuses de côté.
Ça, c'était ma dernière question.
Excuse, mais on fait de la science-fiction, Jeanne, on anticipe, tu le sais.
Ben voilà.
Ça, c'est pour tous les sexes, hein, je crois. Que...
Alors, la machine alliée du deuxième sexe, oui,
ben,
non?
La machine alliée, c'était... Ben, disons que dans un des romans, l'héroïne apporte des... comment dire? Des moniteurs d'hormones sur elle. Alors, ça l'aide lorsqu'elle arrive, le temps de ses règles ou n'importe quoi, ça aide un peu à tempérer là, s'il y a des... donc, elle est moins dépendante des états d'humeur. Sauf qu'à un moment donné, elle doit prêter cet appareil-là, parce que c'est un vaisseau militaire, puis ils n'ont pas tout le temps ça en stock. Elle doit prêter cet appareil-là pour aider à soigner quelqu'un d'autre. Puis là, après ça, elle dit, « Oh, ça a été un petit peu plus dur, là! » Alors, ce sont des 12 mètres. Puis il y a plein d'autres choses, évidemment, qui seraient merveilleuses. Là, on n'a pas parlé de réplicateur 3D. Et on a pas mal commencé à voir des machines en nous. Disons que c'est déjà commencé. Alors, n'oublions pas que nous sommes des machines biologiques.
Ariane?
Oui, puis en fait, on est tellement entouré par les machines que c'est clair que ça devient un allié. Je disais en début de table ronde que je ne me passerais pas de micro-ondes. Alors, ça vous donne une mesure à quel point, dans ma vie de femme de tous les jours, je les utilise. Cependant, je nuancerais en disant que je ne me passerais pas de... C'est important aussi d'aller randonner pour moi autant que possible et puis de garder la part naturelle. Bon, évidemment, je ne vais pas randonner dans les racines pieds nus, tu sais. Je pousse quand même pas jusqu'à l'extrémité le fait de me passer de la machine qui a conçu mes bottes, là, mais tout de même, c'est d'aller faire un petit peu le contrepoids par rapport à ça, parce que oui, on en utilise beaucoup, et puis en fait, puis même dans mon secteur où je reste au Québec, on a constamment des pannes de courant. N'est pas pensé qu'on a souvent des pannes de courant au Québec, là, mais dans mon secteur, et puis je mesure à quel point, justement, l'électricité, ça peut avoir de l'impact, surtout qu'on est dans une zone rouge de ce point de vue-là, entre autres exemples.
Valérie?
Oui, je pense que la machine peut être l'avenir de tous les sexes. Après, ce qu'elle a porté spécifiquement aux femmes, c'est peut-être effectivement des choses comme l'utérus artificiel ou peut-être au niveau de la pensée. Je pense que l'idée du cyborg peut être intéressante, peut-être pour penser l'humain en dehors du sexe, justement. Parce que le cyborg, a priori, il est ni homme ni femme, donc il peut nous donner, nous aider à penser justement une humanité en dehors des genres, et ça peut être intéressant aussi pour les femmes pour s'interroger justement sur ce qui fait qu'elles sont femmes et pas hommes et pas cyborgs, ce qui fait leur sexe et leur identité finalement.
Et pas définie par leur maternité éventuellement.
Voilà, éventuellement, oui. Ouais.
Laurence?
Oui, la machine pourrait aider l'individu, je dirais, plus que l'homme ou la femme, et si c'est utilisé à bon escient, mais plus en tant qu'individu, c'est-à-dire que, plus ouais, par rapport à l'individu plutôt que par genre, en fait.
En fait, quelque part, aider la moitié de l'humanité, c'est aider l'humanité dans son ensemble. Hein. Alors, qu'est-ce que tu m'inventes comme machine du futur, toi ?
Le vaisseau spatial instantané, téléportation, tout ça, ouais, c'est clair, ça, sans hésitation. Voilà.
D'accord.
Ça n'a rien à voir avec les femmes, mais bon, désolé.
Ariane?
C'est sûr que la téléportation, ça serait super intéressant. Sinon, en grande insomniaque, j'aimerais ça qu'il existe une machine pour aider à dormir de façon super efficace, peu importe le décalage horaire, ce genre de choses-là. Puis pas des somnifères, là, mais une vraie machine à dormir là, de façon réparatrice et immédiate, là, vraiment, là. Travailler là-dessus quelqu'un.
La cryogénisation, c'est pas mal. Hein? Oh! Ça, boum!
Oui, effectivement, mais pour la durée, il faudrait l'ajuster à chaque fois de façon adéquate.
Oui. Michel a parlé dans la super brosse à dents du futur. Tu...
Oui. Alors, j'ai trop de choses en même temps. Là. Attends, la question, c'est qu'est-ce qu'on aimerait inventer?
La maman.
La maman?
La quoi?
Excuse-moi, quelle est ta question? Parce que Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais inventer?
Alors, on va te laisser réfléchir. Valérie?
Oui. Puisqu'on est en époque d'élection, je proposerai une machine qui foudroie les hommes politiques qui ne tiennent pas leurs promesses une fois qu'ils sont élus.
Ça va faire une hécatombe. Plus personne ne veut aller. Il ne va pas nous en rester beaucoup.
Justement.
Ah ben, si c'est l'idée, c'est un vaste programme.
Télépathie, probablement. Machine qui laisse voir un peu les émotions des gens. Comme pour ça, quand tu parles à quelqu'un, puis tu vois que la personne, ça la forge personnellement, parce que tu le verrais par des jeux de couleurs, là, tu fais un petit peu attention. Parce que même si c'est bon qu'il faut être franc, à un moment donné, il ne faut pas non plus... dans mon cas, j'ai été élevée comme ça, j'essaie de ne pas faire exprès pour froisser des gens ou pour être cruel envers quelqu'un ou être arrogante. Tu essaies de ne pas l'être. Donc, avoir quelque chose, pour quelqu'un qui n'est pas empathique, là, avoir quelque chose qui permet de voir un peu l'effet de ses paroles sur une personne, ça, moi, j'avoue que j'aimerais ça.
Ah, ça peut être intéressant, oui.
Un tissu hémoréactif qui ferait, par exemple, qu'on verrait le changement de couleur des vêtements si la personne en face de nous est hypocrite ou si elle est franche, quoi.
Alors ça revient à l'histoire des hommes politiques. On leur fait tous des costards en ça. Et ils passent à la télé avec.
On les voit beaucoup quand même en ce moment.
Est-ce qu'il y a vraiment besoin de tissu pour ça, je me demande. Alors c'est le moment des questions du public, si le public en a.
Il y a une main par là.
Bonjour. Du coup, vous avez parlé de l'utérus artificiel et des conséquences que ça va pouvoir pour l'homme, mais du coup, pour sortir d'un discours, pour la femme, donc pour sortir d'un discours genré, l'utérus artificiel permettrait tout simplement à quiconque voudrait d'enfanter. Et du coup, je me demandais pour vous quelles seraient les conséquences justement pour la femme.
Qui veut répondre? Michel?
Là, c'est parce que là, je vais nommer d'autres auteurs. Mais Louis McPastor Bugeaud a écrit une très intéressante histoire qui s'appelle Étant Novatos, où est-ce que c'est une planète où il y a juste des hommes et ils ont des utérus artificiels. Sauf qu'à un moment donné, il y a un gars, ils ont des cultures, ils ont besoin d'ovules, donc de cultures d'ovules. Et à un moment donné, ben, leur culture, ça, au bout d'un certain nombre d'années, ça, il a besoin d'aller en chercher d'autres. Alors, il doit sortir de sa planète où il n'a jamais vu que des hommes et aller dans le grand monde. Alors, ça peut servir donc à des hommes, ça peut servir à des femmes, des civilisations de femmes. Alors, ça, c'est malheureusement ce qu'on va en faire. Juste pour finir, tout ce que je pense, c'est que plus on est divers, la diversité, ça va favoriser la biodiversité et la diversité sociale, la diversité des idées. Ça va toujours favoriser la survie à long terme de l'humanité.
Une autre question?
Bon, c'est toujours sur l'utérus artificiel, mais moi, c'était plutôt sur une question sociale. À quel point est-ce qu'on peut avoir, on va dire, deux catégories de femmes entre les femmes qui pourront bénéficier des utérus artificiels et les autres qui seront attachées à l'animalité, comme on évoquait tout à l'heure, selon la vision positive ou pas qu'on peut avoir de l'utérus artificiel?
C'est le meilleur des mondes, ça.
C'est
évoqué dans le meilleur des mondes, hein, avec le bon sauvage, enfin, etc. Et ça fait longtemps que ça a été écrit, le meilleur des mondes. Donc, en fait, les problématiques sont toujours plus ou moins les mêmes. Hein.
Le problème, c'est que la gestation pour autrui, c'est déjà ça. Le réplicateur utérin ne ferait... Alors là, je me permets de répondre. Hein, c'est mal, hein, le modérateur ne devrait pas. Mais déjà, nous sommes en train d'exploiter le ventre des femmes du tiers-monde pour garder le nôtre bien ferme, bien plat, n'est-ce pas, entre autres, ou ne pas risquer les dangers de la grossesse, ou toutes les raisons qu'on a de faire porter un enfant par quelqu'un d'autre. Donc le réplicateur utérin n'est pas un danger dans cette perspective. C'est forcément un progrès pour éviter l'esclavage, à la base. Après, effectivement, il y aura une gestation à deux vitesses, mais c'est déjà le cas entre la femme qui accouche dans la boue en Afrique et la femme qui accouche dans l'hôpital à Nantes. On n'est absolument pas dans la même perspective de survie, de mon point de vue. On ne fait que changer l'échelle, là.
Bonjour, moi j'avais une question beaucoup plus science-fiction. Vous pensez que si on utilise cette méthode-là, il n'y aurait pas de problème par la suite dans lequel, avec, est-ce que justement il n'y aurait pas que les gens riches qui auraient accès, ou est-ce que par la suite il n'y aurait pas des modifications du corps humain avec, on pourrait sélectionner que les beaux avec l'intelligence, etc., et que ça ne créerait pas une société un peu...
Si, c'est un des principaux problèmes, mais c'est le problème d'accès général à la technologie, à savoir, c'est ce que disait Jeanne.
Ça favoriserait pas la tentation de modifier le gène humain pour faire en sorte qu'il soit parfait, entre guillemets, quoi.
Si, je pense qu'on y va tout droit, vu que ça aussi, ça existe déjà. C'est-à-dire que quand on veut, par exemple aux États-Unis, une femme peut choisir le donneur de spermatozoïdes pour concevoir son futur enfant. Elle peut choisir un prix Nobel d'1m90, blond aux yeux bleus, par exemple. C'est déjà des choses qui existent. Il y a une clinique qui a fait scandale il y a quelques années à Los Angeles, parce que tous ces donneurs devaient être blonds aux yeux bleus. Donc vous étiez sûr d'avoir un joli bébé arien, entre guillemets, à la sortie, quoi. C'est et forcément, avec l'utérus artificiel, ce sera ça puissance 10, puisque là on pourra tout choisir de son futur bébé, oui. Et effectivement, et plus les gens seront, ce sont les gens riches qui auront accès en priorité à cette technologie, et les pauvres continueront sans doute à accoucher naturellement avec tous les risques que cela implique. Ou certains continueront à le faire par choix, hein, pourquoi pas, ça n'empêche pas. Il y aura forcément une rupture financière entre les gens qui pourront se permettre ça et les autres. C'est comme de nos jours, c'est ce que tu disais, mais une mère porteuse doit coûter 20 000 ou 40 000 dollars aux États-Unis. Tout le monde ne peut pas se le payer. Donc ce sont les femmes riches américaines qui payent des femmes pauvres, souvent de pays du tiers-monde, pour porter leur enfant à leur place. Oui. Mais c'est tout le problème général d'exploitation. Enfin, c'est un problème plus général, si vous voulez. C'est de la même manière, on fabrique des enfants un peu comme on fabrique des t-shirts au Bangladesh à bas prix pour satisfaire les populations occidentales. Là, c'est un peu le même problème avec des... Bon, c'est encore pire, effectivement, avec des bébés, bien sûr, mais c'est un peu le même problème d'exploitation générale du Nord par le Sud, des pays occidentaux contre les pays d'Asie ou d'Afrique. Enfin, c'est un problème très général. Hein.
Laurence, tu vas conclure. Je conclue, parce que c'est un problème à la fin.
C'est comme le clonage, hein, c'est un problème d'éthique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a développé aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que effectivement, il va falloir réfléchir à tout ça. Mais ça existe déjà, justement, ce que disait... c'est déjà ce qui se passe déjà, mais à une échelle plus réduite. Mais c'est déjà, ça arrive déjà, en fait. Donc,
Ça arrive depuis les cavernes, en fait. Merci de nous avoir suivis.